Avec cette lecture d'Isaïe, ce matin, nous entrons dans de la consolation. C'est l'invitation que Isaïe est invité à proclamer comme prophète. C'est intéressant le mot consolation, ça vient de solor en latin, ça veut dire soulager, j'apaise, je rends favorable. Et au fond, la consolation va avec ce qu'on pourrait appeler la sollicitude. Là aussi, l'étymologie est intéressante. La sollicitude porte l'idée d'inquiétude, de tourment. Et donc nous pouvons entendre ici que nous sommes le tourment de Dieu, son inquiétude. Alors, c'est intéressant de pouvoir nous poser la question à cette occasion, tout simplement, mais franchement, de nous dire c'est quoi Dieu pour moi ? C'est quoi Dieu pour moi ? C'est quelqu'un que je viens servir, quelqu'un à qui, avec qui je fais des contrats, quelqu'un qui veut être dans une relation d'amitié avec moi. Des amis, ça se rend service de temps en temps, mais c'est pas le service qui crée l'amitié. Dans l'amour, on peut aimer quelqu'un et ne pas être aimé. Dans l'amitié, c'est toujours réciproque. Donc ici, nous avons cette grande proclamation d'un Dieu qui vient sauver, hein, avec cette idée que tout passe, mais pas la parole de Dieu, pas l'engagement de Dieu. Donc c'est une véritable consolation pour les auditeurs d'Isaïe. Et c'est une proclamation à élever avec force. Élève la voix, la notion de puissance de Dieu qui est là, qui est importante, et qui nous fait donc dire qui est Dieu pour moi, que désire Dieu en faisant cela? Quel est le désir de Dieu en accompagnant cela? Et l'incarnation nous dit que le désir de Dieu, c'est de nous rejoindre. Dieu est heureux en notre présence. Est-ce que cette idée, nous l'acceptons? Est-ce que nous l'entendons? Ou bien est-ce qu'elle nous révolte? Est-ce que nous sommes tellement obnubilés par notre pauvreté ou par nos activités, par notre péché ou par notre suffisance, que finalement, nous ne prêtons même pas attention à ce désir de Dieu de nous rejoindre. Et l'épître finit, enfin c'est pas une épître du reste, la lecture d'Isaïe, la prophétie d'Isaïe s'achève sur l'idée d'un berger qui porte ses brebis sur son cœur, hein. Les agneaux sur son cœur. C'est extrêmement fort, quand même. Nous sommes invités à accueillir cette tendresse de Dieu, à renoncer à nous débattre contre cette tendresse, parce qu'elle ne nous paraît pas proportionnée, parce que nous en sommes encore à nous dire, je ne suis pas digne, comme si la volonté de Dieu n'était pas supérieure à ma prétention d'une dignité ou d'une indignité. C'est tout de même Dieu qui sait, bon sang. Voilà, c'est vraiment une vraie question pour nous de nous dire, mais je me prépare à Noël, et qui est Dieu pour moi ? un Dieu qui prend soin et donc qui annonce une libération. Une libération. Et tant que nous sommes dans une situation contractuelle avec Dieu, ou une situation de service, vous savez, le frère aîné, ça fait tant d'années que je te sers. Oui, tu te comportes comme un esclave, en fait. Alors que Jésus nous dit l'inverse, il nous dit, c'est parce que vous êtes mes amis que nous pouvons nous servir. C'est parce que nous sommes amis que nous pouvons nous servir. Mais pas de l'esclavage. Jésus ne veut pas de ça. Tant que nous sommes dans cette idée que nous apportons quelque chose à Dieu, que comme nous avons été gentils, nous méritons une caresse, que nous blessons le cœur de Dieu finalement, parce que Dieu veut bien plus que ça pour nous. Dieu ne nous réduit pas à nos actions. Contrairement à nous, nous avons tendance à réduire les autres, à les enfermer dans leurs actions, en les empêchant parfois par notre regard ou nos paroles de changer, d'évoluer, de bouger. Et Dieu, lui, ne veut pas de ça. Parfois, il est obligé de se taire parce qu'on fait tellement de bruit qu'il faut que ça s'arrête. Vous savez, comme un enfant qui fait un caprice. Qu'est-ce que vous faites devant un enfant qui fait un caprice ? Parfois, vous le laissez dans le silence, hein, pour qu'il se calme. Alors, dans l'Évangile, nous avons une nouvelle révélation de Dieu comme pasteur attentionné. Et alors, ce Dieu, il a quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'il part toujours à notre recherche. Aussi loin que tu te perdes, Dieu ira plus loin encore pour te chercher, écrivait la petite Thérèse, je cite approximativement. Dieu ne s'arrête pas. Vous voyez, c'est le mot sollicitude, cette inquiétude. Dans sollicitude, il y a aussi le verbe chieo en latin, qui signifie faire revenir à soi. Donc la solitude c'est de Dieu, c'est de nous faire revenir à lui. Mais pas parce que c'est un tyran, parce que nous sommes faits pour lui. Et que son bonheur, c'est d'être avec son bonheur à lui, c'est d'être avec nous. Et il faut que nous découvrions cette relation toute simple, qui est impensable, qui est inimaginable, qui devait être révélée. On ne pouvait pas imaginer un truc pareil. C'était pas possible. Donc voilà. Alors cette recherche de Dieu, bah, évidemment, m'a fait penser à une page de Peggy dans le Porche du mystère de la deuxième vertu où je trouve qu'il décrit très bien ça. Je vais en lire quelques lignes. Jésus aussi était un simple berger. Mais quel berger, mon enfant ? Berger de quel troupeau ? Pasteur de quelle brebis ? En quel pays du monde ? Pasteur des 100 brebis qui sont demeurées dans le bercail. Pasteur de la brebis égarée. Pasteur de la brebis qui revient. Alors je passe quelques lignes. Par cette brebis égarée, Jésus a connu la crainte dans l'amour et ce que la divine espérance met de tremblement dans la charité même. Par cette brebis, et parce qu'elle ne rentrait point au bercail, et parce qu'elle allait manquer à l'appel du soir, Jésus, comme un homme, a connu l'inquiétude humaine. Jésus fait homme, il a connu ce que c'est que l'inquiétude au cœur même de la charité, l'inquiétude rongeante au cœur d'une charité ainsi véreuse. Mais ainsi aussi, il a connu ce que c'est que la toute première pointe de la poussée de l'espérance. Je trouve ça très, très bouleversant parce que nous sommes dans le temps de l'attente, donc aussi de l'espérance, avec cette idée qu'au cœur de la charité, il y a l'inquiétude de Dieu. Qui parmi nous considère l'amour de Dieu comme une inquiétude à notre égard ? Une inquiétude au bon sens du terme. Hein. Et Dieu ne tient pas en place tant que ses enfants sont dispersés. La petite Thérèse disait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ben en fait, c'est exactement ce que Dieu passe son temps à faire. Le bon pasteur, c'est-à-dire le bon berger, par elle, il a connu l'inquiétude, par celle-ci qui n'est point restée avec les 99 autres, la mortelle inquiétude, la dévorante inquiétude au cœur de Jésus, l'inquiétude de ne pas la retrouver, de ne pas savoir, de ne la retrouver jamais, l'inquiétude humaine, la mortelle inquiétude d'avoir à la condamner. Et Peggy, là, ces mots assez bouleversants, mais enfin il est sauvé. Lui-même, le Sauveur, il est sauvé. Il est sauvé d'avoir à la condamner. Comme il respire, ça en fait toujours une de sauver. Voilà, je voulais vous dire ça. Je crois que c'est un très beau commentaire pour l'Évangile que nous pourrions méditer. Donc, le porche du mystère de la deuxième vertu. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez l'acquérir. Mais si... vous n'avez pas de quoi l'acquérir, vous pouvez le trouver sur Internet. Le PDF se trouve assez facilement. Voilà. Entrons dans cette immense sollicitude de Dieu et laissons-nous rejoindre. C'est pas évident de se laisser rejoindre quand on est soi-même rongé par l'inquiétude, par des tracas. C'est pas facile. Donc, pouvons prier pour ceux qui sont dans cette situation et demander à Dieu de rendre grâce à Dieu pour cette inquiétude de son amour.